Chapitre 81. Les bureaux du FBI à Chicago se trouvent dans un complexe en verre bleu scintillant situé dans un quartier triste proche du chemin de fer et de l'université. Saga Bauer est assise au 9e étage avec l'inspecteur Lowe dans une salle de conférence dont le sol est recouvert d'une moquette bleu marine et jaune. Saga s'est excusée en expliquant qu'elle n'avait pas vu d'écriteau avec son nom à l'aéroport et qu'elle avait supposé qu'il devait se voir après sa visite à l'établissement de soins. Un chef administratif à la moustache grise est venu la saluer brièvement. Il lui a fait savoir qu'ils sont déjà dans la merde jusqu'au cou à cause de l'arrestation de 34 membres d'un gang criminel, les Latin Kings. Depuis son retour de Timberland Knowles, Saga a appelé Juna plus de 10 fois sans succès. À cette heure tardive, les bureaux sont presque vides lorsqu'une commissaire du siège à Washington entre dans la salle de conférence et pose son sac Prada sur la table. La petite femme a des yeux noirs, des cheveux lissés et le front barré d'une ride profonde. « Supervisory Special Agent Lopez », dit-elle en anglais, sans un sourire. « Saga Bauer ». Elle se serre la main et Lopez déboutonne sa veste en s'asseyant. Notre secrétaire adjoint de la Défense a été assassiné en Suède parce que vous et vos collègues avez fait un boulot exécrable. J'en suis désolé, réplique Saga. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les terroristes? Demande Lopez en se renversant sur sa chaise. Personnellement, je ne pense pas qu'il s'agisse de terrorisme. Mais nous allons bien entendu suivre toutes les pistes. Lopez lève un sourcil ironique. Comme en venant ici? Oui. Qu'avez-vous trouvé? C'est bien au-delà de mon niveau de compétence de prendre des décisions concernant l'échange d'informations entre... Je n'en ai rien à cirer, l'interrompt Lopez. Il faut que je parle à mon chef, lâche Saga. Allez-y. Saga sort son téléphone et appelle Juna de nouveau et cette fois il répond. Enfin, dit-elle en suédois. Tu as essayé de me joindre? J'ai laissé des messages. Mon téléphone s'est retrouvé dans la mer, se justifie-t-il. Saga observe le tableau blanc avec des traces de feutre rouge, vert et bleu à moitié effacées, pendant qu'elle lui explique qu'en tant qu'agent de la CEPO, elle n'a pas le droit de lui dire que Grace a été victime d'un viol collectif dans le terrier de lapin. Elle se souvient des noms des violeurs. Il y avait William, Teddy Johnson, Kent, Lawrence et Rex Muller.
Rex Muller, elle a dit ça?
Oui, répond Saga, et elle adresse un sourire à Lopez qui la fixe d'un regard inexpressif. Alors Rex est désigné à la fois comme violeur et comme celui qui se venge du viol. Comment ça, de quoi tu parles? J'ai arrêté Oscar von Krutz. Je vais l'interroger encore une fois, mais il m'a déjà raconté ce qui s'était passé, et de toute évidence, Rex n'y a pas participé, dit Juna. Il l'avait enfermé dans les écuries avant de violer sa copine, et Oscar est persuadé que c'est Rex qui a commencé à se venger de tout le monde. « Donc Rex n'aurait pas participé ?» demande Saga. « Non. » Lopez fouille dans son sac et sort un tube de rouge à lèvres. « Et tu ne penses pas que ce soit lui l'assassin ?» constate Saga. « Il a assez d'argent pour payer quelqu'un pour le faire à sa place. » « Mais rien de tout ça ne semble pertinent, » complète Saga. Les meurtres ont forcément un lien avec ce qui s'est passé au Terrier de Lapin. Nous avons un tueur à la chaîne qui élimine les violeurs les uns après les autres. Mais pourquoi? Il a dû être présent ce soir-là. Un témoin? Autre chose. Il s'est passé un truc, un détail que nous ignorons. Un facteur inconnu. Un étranger à l'affaire. Et ce serait qui? Nous avons la victime et les violeurs, mais il manque un élément.
Lequel?
C'est ce que nous devons trouver. Je vais parler avec Grace, et toi tu interroges Rex et Oscar, dit Saga. Je pense que nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous. Elle raccroche, glisse le téléphone dans sa poche et se tourne vers Lopez avec un sourire. Le chef dit qu'il va vous contacter demain, explique-t-elle. Je comprends le suédois, annonce Lopez d'un air rigide en anglais. Alors vous êtes au courant? Lopez sourit de son propre bluff, puis elle hoche la tête. « Votre chef dira qu'il va falloir me raconter tout ce que vous savez. »«
Je l'espère. » Je viendrai vous chercher à votre hôtel après le petit déjeuner.
Je vous remercie, répond Saga, et elle quitte la salle de conférence. Elle rend son badge de visiteur à l'accueil après le sas de sécurité, puis monte dans la voiture jaune sur le parking. Sans se presser, elle roule jusqu'à la barrière, attend qu'elle se lève, tourne à droite sur Roosevelt Road et reprend la direction du luxueux centre de soins. La circulation dans les banlieues est plus fluide désormais. Et le ciel pluvieux et gris de Chicago a une teinte d'argile lorsque Saga se garde en Timberline Drive. 500 mètres plus loin, la guérite du gardien et les grilles fermées scintillent comme de la neige dans la forte lumière des projecteurs. L'heure des visites est passée depuis longtemps et les patientes sont probablement déjà couchées. Elle marche vite sur la route, mais avant d'atteindre la lumière, elle enjambe le fossé et s'enfonce dans la forêt. Tout est silencieux hormis le bruit de la pluie sur le feuillage dense et celui de ses pas sur l'herbe et les feuilles mortes. Elle s'éloigne de biais des grilles pour rejoindre la clôture, écarte des branches et essaie de distinguer la lumière de l'institution entre les troncs et la végétation. Elle n'a pas le temps d'attendre le lendemain. Elle doit absolument entrer et parler avec Grace tout de suite. Car qu'ils aient affaire à un tueur à gages ou à quelqu'un qui travaille pour son propre compte, son intention est de tuer aussi efficacement que possible tous ceux qui figurent sur sa liste. Son motif, comme son mode opératoire, sont pervers, et même si les meurtres ne sont pas sexualisés, tout porte à croire que l'assassin a un esprit tordu et confus. Elle traverse une clairière de fougères mouillées, entend un bruit traînant derrière elle, se retourne et scrute les cimes noires des arbres. Un oiseau lourd se déplace parmi les branches les plus hautes, on dirait des métrages de soie qui se froissent. Saga continue son avancée et se retrouve de nouveau dans l'obscurité plus compacte entre les troncs. Elle a l'impression de voir des lumières bouger. L'urgence est justifiée car l'assassin possède toutes les caractéristiques du tueur à la chaîne. Sa motivation est profondément personnelle, mais chaque meurtre n'est pas le point culminant d'un fantasme et ne demande pas de temps de récupération. Chaque meurtre n'est qu'une étape, l'un des éléments d'une solution définitive. Saga débouche en trébuchant sur une zone exploitée de la forêt et s'arrête devant la clôture en acier noir de 4 mètres de haut. Entre des poteaux épais sont dressés des piquets plus minces aux bouts pointus, reliés entre eux par des contreventements. Accrochés à quelques mètres de distance, des panneaux de tôle informent les promeneurs qu'il est interdit de pénétrer dans l'enceinte et donnent le nom de la société de gardiennage qui assure la sécurité. Saga s'avance et saisit l'un des piquets, pose le pied sur un panneau jaune portant l'inscription « CCTV in operation » et se met à escalader la clôture. Elle atteint les bouts pointus avec les mains, se hisse jusqu'en haut, s'agrippe au grillage et se laisse tomber de l'autre côté. Un réseau de chemins de promenade éclairés sillonne le grand parc avec son alternance ordonnée de pelouses et de parties boisées. Saga court entre les arbres, puis suit une allée piétonne à l'écart de la lumière. Si Grace n'a pas pris d'autres médicaments, il sera peut-être possible de lui parler de ce qui s'est passé au terrier de lapin. Saga ralentit en arrivant plus près du centre de soins. Des lampadaires jettent une lueur désolée sur les allées et les bancs mouillés par la pluie. Les différents services sont éteints, le verre des fenêtres ne donne à voir que le morne reflet de l'extérieur. Derrière elle, les feuilles bruissent de la pluie qui dégoutte. Quelqu'un marche entre les bâtiments. Saga s'écarte et s'accroupit derrière les buissons. C'est un homme de la société de gardiennage qui vérifie que les portes d'une résidence sont bien fermées. Saga l'entend faire son rapport via un talkie-walkie pendant qu'il s'éloigne.